Vendredi 29 avril, mais ça passe le temps, c'est pas possible. Bonjour, vous allez bien? Vous savez, mes frères et sœurs, pour vraiment vivre une bonne vie, il faut absolument que votre foi repose sur votre croyance absolue dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu dit. Il faut que vous ayez, que vous croyiez que la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Pourquoi moi, Michel Janton, je crois que la Bible est inspirée de Dieu? Alors, je vais vous dire franchement, j'ai jamais réussi à convaincre quelqu'un qui n'est pas disposé à croire. Je ne suis pas le seul, Jésus lui-même. Souvenez-vous, même les gens qui ont vu Lazare ressuscité, ça n'a pas triomphé du parti de ceux qui ne voulaient pas croire, hein. Il est écrit dans Jean 11, 53 que lorsque Jésus a accompli cette résurrection formidable, ce miracle public devant tout le monde, eh bien, certains résolurent de faire mourir Jésus. Ah ben, je vous le dis, la nature humaine n'a pas changé, c'est toujours pareil. Alors, ce que je vais vous dire, j'ai pas la prétention de convaincre ceux qui ne veulent pas croire. Continuez, vous verrez bien. Mais je vais vous le dire pour vous aider à croire, si vous avez le désir de croire et à vivre le bonheur que Dieu vous destine. Alors ça sera, je vais vous en parler aujourd'hui, puis je vais vous en parler encore dimanche. Alors premièrement, je crois que la Bible est vraie à cause de son contenu et de son harmonie. On ne parle pas souvent de ça, mais c'est quand même très important. Vous vous rendez compte que la Bible compte 40 auteurs. Et parmi ces 40 auteurs, il y avait des gens très différents. Des vachers, des bergers, des marins, des hommes politiques, des prêtres, des poètes, des philosophes, des hommes d'État, des prophètes, des collecteurs d'impôts, des médecins, j'en passe, enfin, toutes sortes de gens. Ils ont écrit 66 livres. La Bible est composée de 66 livres. Échelonné, tout ça c'était échelonné sur une durée de près de 2000 ans. Donc ces gens ne se sont pas tous connus, c'est évident. Ces gens avaient des cultures et des traditions différentes, très très diverses. Parce qu'en 2000 ans, les choses changent, hein, dans les cultures humaines, dans les façons de comprendre les choses. Voilà. Et ils ont écrit sur deux continents différents, dans des pays éloignés, de plusieurs centaines de kilomètres. Pourtant, ils ne se trouvent pas de désaccord et d'incohérence. Au contraire, ces 66 livres contiennent un seul système doctrinal, un seul plan du salut, un seul plan éthique, une seule règle de foi, une seule histoire qui est une histoire d'amour et de rédemption. Ces hommes, ces femmes ont écrit depuis l'Arabie, l'Italie, la Grèce, le désert du Sinaï, depuis le fin fond de la Judée, depuis des prisons, sur l'île de Patmos, depuis des palais de Suse, depuis la montagne de Sion, depuis les rives du fleuve de Babylone, je ne me rappelle plus son nom, du Kédar. Alors, comment ces auteurs ont-ils pu parvenir à une telle unité, à une telle cohésion de pensée? Est-ce qu'ils auraient pu échafauder la même supercherie? Ça me paraît invraisemblable. Donc, la logique me pousse à croire que ce qu'ils ont écrit, est inspiré de Dieu pour le bien de l'humanité. La Bible a résisté à l'épreuve de 20 siècles. Personne n'est parvenu à en améliorer le sens profond. Il n'y a pas eu un lambeau d'évidence archéologique qui contredit sa véracité. Et la honte a toujours rejailli sur ceux qui ont voulu la ridiculiser. Et plus je lis la Bible, plus je la crois. Il y a des scientifiques qui en doutent et n'arrivent pas, ils n'arrivent quand même pas à la réfuter, au contraire. Toute nouvelle découverte de la science peut être corroborée par la Bible. Je vais aller à mon autre bureau là, c'est pourquoi vous m'entendez un petit peu moins bien, et je prends le livre que je suis en train de lire, qui s'appelle Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution de Michel-Yves Bolloré et de Olivier Bonnassé. C'est à l'édition Guy Trédaniel. 3 ans de travail avec une vingtaine de scientifiques et de spécialistes de haut niveau. Voici révélé les preuves modernes de l'existence de Dieu. Pendant près de 4 siècles, de Copernic à Freud, en passant par Galilée et Darwin, les découvertes scientifiques se sont accumulées de façon spectaculaire, donnant l'impression qu'il était possible d'expliquer l'univers sans avoir besoin de recourir à un Dieu créateur. Et c'est ainsi qu'au début du XXe siècle, le matérialisme triomphait intellectuellement. De façon aussi imprévue qu'étonnante, le balancier de la science est reparti dans l'autre sens, avec une force incroyable. Les découvertes de la relativité, de la mécanique quantique, de l'expansion de l'univers, de sa mort thermique, du Big Bang, du réglage fin de l'univers ou de la complexité du vivant se sont succédées. Ces connaissances nouvelles sont venues dynamiter les certitudes ancrées dans les esprits collectifs du XXe siècle, au point que l'on peut dire aujourd'hui que le matérialisme, qui n'a jamais été qu'une croyance comme une autre, est en passe de devenir une croyance irrationnelle. Dans une langue accessible à tous, les auteurs de ce livre retracent de façon passionnante l'histoire de ces avancées et offrent un panorama rigoureux des nouvelles preuves de l'existence de Dieu. À l'orée du XXe siècle, croire en un Dieu créateur semblait s'opposer à la science. Aujourd'hui, ne serait-ce pas le contraire? Une invitation à la réflexion et au débat. Voilà, je vous conseille de lire ce livre, Dieu, la science et l'épreuve, l'aube d'une révolution. Vous savez, tous les érudits ne sont pas sans avoir à leur actif des erreurs monumentales. Il y a quelques centaines d'années, la plupart insistaient sur le fait que la Terre était plate. J'ai vu que ça revient à la mode. Ça revient à la mode. Il y en a qui pensent ça. Bon. Un grand spécialiste écrivait en 1890, « Le sens commun indique que si on construisait un véhicule motorisé qui roule à 80 km/h, le conducteur ne pourrait plus respirer. Il n'y a pas tellement longtemps, les scientifiques pratiquaient des saignées pour réduire les excès de tension. Mais la parole de Dieu demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous est annoncée par l'Évangile. Épître de Pierre, 1er épître de Pierre, chapitre 1, verset 25. Je crois que la Bible dit vrai aussi à cause du témoignage des martyrs. Des individus, des gouvernements ont toujours et ont encore aujourd'hui et cherchent encore aujourd'hui à annihiler la foi en Dieu. Des chrétiens ont été torturés, persécutés, sans pitié. Et le sont encore aujourd'hui dans beaucoup de pays. Actuellement, des Bibles ont été et sont encore brûlées. Ces messagers sont lapidés, jetés en pâture aux bêtes féroces, cuit dans de l'huile bouillante. On a tué ses prophètes, on a assassiné ses fidèles. Vous trouvez ça aussi dans Hébreux chapitre 11, verset 32-38, dans Apocalypse 6-9. Mais ces hommes et ces femmes, ces enfants aussi, qui sont morts pour leur témoignage de Jésus-Christ, ont persévéré dans son principe d'amour. Et encore de nos jours, vous ne verrez jamais un chrétien ou une famille de chrétiens user de représailles ou chercher à se venger. Ils n'ont jamais rendu le mal pour le mal. Ils ont vécu et ils sont morts dans l'amour en étant prêts à mourir pour Jésus. Apocalypse 12, 11, 1 Jean 3, 16, on va le lire ça, 1 Jean 3, 16. Alors, je vous le prends, c'est pas difficile à se rappeler, 1 Jean 3, 16, vous lirez ça, je vous le lis dans la parole vivante de Alfred Kuhn, que j'aime particulièrement. Voilà ce qu'il dit. Nous avons appris à connaître ce qu'est le véritable amour par celui qui a offert sa vie pour nous, c'est-à-dire Jésus. C'est pourquoi nous devons nous aussi engager notre vie pour le bien de nos frères. Et puis il y a Jean 15, toujours l'apôtre Jean, chapitre 15, verset 13, et il dit là, celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son amour. Personne ne peut avoir un amour plus grand. Quand il y a un si grand nombre de personnes qui ont donné leur vie, qui donnent encore leur vie, il y a des milliers encore aujourd'hui, pour témoigner de l'Évangile, ben moi, ça m'impressionne. Il y en a qui nient tout ça, c'est des négationnistes. Ben voilà, ça existe. Mais moi, ça m'impressionne. C'est plus qu'une cause politique pour laquelle on s'engage, c'est plus qu'une cause religieuse, fanatique, dans laquelle on s'engage. Quelqu'un qui donne sa vie, c'est du profondément réel. Dimanche, je vais vous parler de trois autres raisons qui font que je crois que la Bible est vraiment le livre inspiré de Dieu. Mais je tenais quand même à parler aujourd'hui de ces deux points-là, de ces deux choses importantes. Réfléchissez-y devant Dieu et puis faites le choix de croire ou pas. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.